Bonjour, merci à tous. On vient d'arrêter le petit morceau de musique. Simplement, vous faites bien de venir à cette conférence, car a priori, c'est une conférence sur la fin du monde. Donc peut-être que c'est la dernière conférence des Utopianes. Peut-être que nous vivons nos dernières minutes et nous allons passer notre dernière heure ensemble. Et ça nous fait à tous plaisir, évidemment. Alors, juste à côté de moi, pour débattre de cette thématique sur la fin du monde, qui a comme sous-titre, vous savez que selon les Mayas, nous allons tous mourir en 2012. C'est joyeux. Et on va se demander si finalement l'homme et la Terre ne sont pas éternels. Donc, juste à côté de moi, j'ai Fabien Velman, qui est scénariste de bande dessinée.
Bonsoir.
Et je suis très content de l'avoir. On va citer. Alors, il y a plein de séries qu'il a fait. Notamment peut-être une des plus connues, c'est Green Manor, qui ne va pas nous intéresser ce soir.
Oui, mais c'est plus victorien. Mais
voilà. Il y a La Nuit de l'Inca. On recommandera également la lecture de la série Yann. Et puis d'autres séries. Juste à côté de lui, Norman Spinrad, le plus français des auteurs américains, on peut dire ça comme ça. Alors je vous rappelle, hein, pour quelques titres, Rêve de fer, Bleu comme une orange. Et puis Il est parmi nous, qui est son dernier titre. Juste à côté, Stéphane Beauverger. Stéphane Beauverger qui a publié Le cycle chromosome, mais également Le déchronologue il y a quelques mois. Et puis des nouvelles, notamment une nouvelle dans l'anthologie qui s'appelle 69 et que vous trouverez en librairie un petit peu partout. Et puis Pierre Lagrange. Pierre Lagrange qui est notamment un spécialiste de l'ufologie et des ovnis. On peut dire ça. Chercheur, la caution sérieuse de cette table ronde sur la fin du monde.
Et pour l'aspect fin du monde, il se trouve que j'ai écrit une biographie avec un historien de Nostradamus.
Ah bah,
donc
génial.
On est à peu près dans le sujet. Oui.
On va pouvoir en parler. Alors je voulais déjà faire un premier tour de table, leur demander un peu leur fin du monde à eux, du moins celle qu'ils ont mis en scène dans leurs œuvres. Et pour commencer avec Fabien Velman, alors peut-être on va parler de La Nuit de l'Inca, qui est, on n'est pas dans les Mayas, mais on est chez les Incas, et du coup, l'histoire commence, le soleil a disparu, c'est ça ?
Oui, c'est une de mes deux séries où il est question de la fin du monde. Donc dans La Nuit de l'Inca, c'est effectivement, c'était la plus grande crainte des Incas, c'était que le soleil ne réapparaisse pas. Donc forcément, d'un point de vue narratif, c'était intéressant que ça arrive. Donc le soleil ne réapparaît pas et c'est l'histoire de cette longue nuit qui va comme ça durer plusieurs mois sur l'empire Inca et sur le fait, la réaction de cet empire qui va essayer de retarder ce qu'il pense être l'inéluctable en organisant des sacrifices. Donc il y a ce diptyque et puis dans une série qui s'appelle Seul, qui est dessinée par Bruno Gazzotti, il est question, je ne peux pas révéler exactement ce qui se passe à la fin puisque c'est un mystère, mais il y a une ambiance qu'on pourrait qualifier de post-apocalyptique puisqu'il s'agit d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes dans une ville dont tous les autres personnages ont disparu, en particulier les adultes, mais pas que. Ils se retrouvent à 5-6 au départ, puis ils en retrouvent une cinquantaine, mais de toute façon c'est un monde d'enfants, de quelques enfants dans une ville déserte. Voilà à peu près les thématiques que moi j'ai abordées en tout cas dans mes bouquins.
Norman Spinrad, alors on a eu un petit peu, c'est vrai que les fins du monde ne sont pas vraiment présentes, néanmoins dans Il est parmi nous, c'est quasiment la fin du monde.
Peut-être la fin du monde, c'est le monde qui est à cause de être totalement fini, le monde de la biosphère est total et le réfugié ou le résultat voudrait changer son présent pour changer le passé avec en envoyer un comédien de changer notre présent pour gagner une victoire contre le fond de notre biosphère. Autre fin de monde que j'ai écrit était mon premier roman. Les Solarians, c'est l'explosion de la Terre pour raisons politiques. Et en avalier de vide, c'est la destruction de la planète totale. Et qu'est-ce que c'est qui existe de l'humanité après? C'est une petite flottille de navettes espèces comme le Boat People de Vietnam, des choses comme ça. Mais la question pour moi, c'est qu'est-ce que c'est le monde? le fond de croire. C'est une petite histoire de Ray Bradbury. Je ne connais pas le titre. C'est très petit, mais impressionnant. C'est en Mexique. C'est les deux mecs dans une pompe de pétrole. Et toute la voiture américaine est en train de va nord aux États-Unis, en grande panique et tout ça. Et en voiture reste à la station pour le pétrole. Et le Mexique nous dit, qu'est-ce que c'est ça? Tous les Américains vont voir comme ça. Oh, les Russes ont bombé les États-Unis. C'est le fond du monde. Et bouge à nord. Et un Mexique dit à l'autre, le monde, qu'est-ce que c'est on dit le monde? La planète, la civilisation, l'espèce, particulièrement pour de la littérature de la science-fiction, c'est beaucoup de choses. Le fond de la planète Terre, ou le fond de l'espèce, le fond de la biosphère, tout ça. Pour la plupart, quand vous me demandez qu'est-ce que c'est les choses qui vous écrit dans le fond du monde, je sais, oh, je ne sais pas, mais j'écris quelque chose, mais pour la plupart, c'est pas mon idée, mon métier de faire ça. Peut-être je suis un peu plus optimistique. Après, on est parmi nous, vous avez un futur avec le monde total de la biosphère. Et le remnant de l'espèce humaine qui existe dans un endroit comme ça, ou un shopping mall avec les systèmes d'espace pour une station d'espace. Toute la nourriture est synthétisée. Et je crois que en existence comme ça, c'est possible. Pas bien, mais possible. Vous avez un fond de le monde vivant, mais c'est un monde qui existe après.
Alors, je vais poser la même question à Stéphane. Stéphane, dans Chromosome, tu as un électrovirus militaire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, ce qui se passe?
Oui, en fait, effectivement, dans la trilogie Chromosome, ce que j'avais imaginé, alors c'est moins la fin du monde que la fin d'un monde, en fait. Donc, c'est le point de rupture, c'est-à-dire lorsqu'un virus électronique militaire destiné à détruire des systèmes de communication ennemis est tellement sophistiqué qu'il trouve le trou de serrure de l'espèce humaine et il se met à véroler directement les humains. Et ça rend les individus tellement dangereux que la société disparaît dans un énorme bain de sang cannibale. Donc c'est dans le premier tome, effectivement, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui se passait lorsqu'il n'y a plus aucune structure et que chaque individu est obligé de survivre dans ce qu'on peut appeler une apocalypse. Dans le tome 2, les survivants tentent de trouver une solution. Et dans le tome 3, on tire une synthèse de tout ça et on essaie de regarder si ça valait le coup d'essayer de s'en sortir, si on a tiré les bonnes leçons, si on a refait les mêmes bêtises ou si on va recommencer pour un tour. Voilà. Donc, n'étant pas forcément d'un naturel très optimiste, je suis parti du principe qu'on allait refaire les mêmes bêtises et que la leçon n'avait pas porté.
Et la suite se passe pas très bien.
La suite se passe pas très bien. Disons que les entités ont changé, les groupes humains ont changé, les groupes de puissance ont muté, mais nous sommes toujours dans une logique humaine, à savoir des conflits de pouvoir pour la prédominance. Et il n'y a toujours pas il n'y a toujours pas de survie commune. Il y a toujours des intérêts divergents, voire conflictuels. Donc, vers la fin du troisième tome, on réalise que les conflits sont déjà en train de se mettre en place pour la prochaine fois.
Et alors, dans le déchronologue, on a un cataclysme temporel.
Alors, dans le déchronologue, c'est également une fin du monde, mais c'est la fin. Encore une fois, c'est la fin d'un monde, puisque ça se passe dans les Caraïbes en 1640. À l'époque des premières implantations de colonies huguenotes dans la mer des Antilles. Et il y a décrochages temporels qui font que un équipage pirate voit son univers être totalement modifié puisqu'il y a des choses qui viennent d'ailleurs. Donc c'est un voyage dans le temps et ce sont des paradoxes temporels, mais vus non pas par les voyageurs qui viennent visiter les époques, mais vus par les gens qui tout à coup se font envahir et qui donc doivent apprendre. Jusqu'à là, pour eux, c'est pas très compliqué de régler un conflit. On utilise des canons, la poudre, quelques sabres d'abordage, et tout à coup, il apparaît des armes à longue portée, on peut communiquer par radio, et donc ça devient une course à la technologie, mais une technologie qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ils sont obligés de trouver un moyen de s'approprier des objets technologiques dont ils ne savent rien, dont ils ne savent pas comment ça fonctionne. Il faut se les accaparer pour réussir à survivre dans cet univers où toutes les règles ont été modifiées par les décrochages temporels.
Alors par rapport à nos deux autres auteurs, toi tu racontes ces cataclysmes.
Voilà.
Y a un plaisir particulier à tuer un monde ?
Je ne sais pas si c'est un plaisir particulier. Je suis né dans une société à une époque où le pessimisme est plutôt de rigueur. Enfin, il y a plus de pessimistes que d'optimistes. Comme je dis de temps en temps, la dernière fois qu'il y a eu un sondage qui a été organisé sur la société française, par un des organismes qui fait une classification de toutes les tranches sociales de la société pour voir comment ils réagissent par rapport aux grands problèmes de l'époque. La dernière fois que ça a été fait, c'était il y a 3 ans. À la question « Vos enfants auront-ils une vie meilleure que la vôtre ?», une majorité de Français ont répondu non, ce qui n'était jamais arrivé, ce qui est bien un signe que les gens s'inquiètent. Alors, je rajoute après qu'ils se trompent peut-être, et que ce n'est pas parce qu'une majorité le pense que c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai l'impression d'évoluer dans une société où ça ne va pas, où ça va même de moins en moins. Et donc les questions qui me reviennent lorsque j'ai envie de raconter des histoires, c'est souvent qu'est-ce qui se passe si vraiment ça se met à déraper gravement, de quelle manière on survit, dans quelles conditions, est-on capable de faire autre chose que de l'égoïsme, est-on capable de tendre la main à autrui, et selon quels principes les humains vont se fédérer pour essayer de survivre à quelque chose d'imminent et de terrible qui approche.
Enfin, on y reviendra après, mais personnellement, j'ai énormément de plaisir à détruire le monde. Donc, enfin, je crois que c'est important. C'est une question qui me paraît assez pertinente. Merci de cette excellente question. J'y reviendrai plus tard, parce que je pense que justement, ça mérite vraiment de s'y arrêter, parce que je crois qu'elle va beaucoup plus loin que simplement le plaisir de créateur à le faire. Mais je vais d'abord laisser notre quatrième camarade s'exprimer.
Tu dois ajouter quelque chose, Stéphane.
Non, en fait, non, c'était. J'attendais également l'intervention de notre quatrième.
Alors, Nostradamus et ce roman.
Ouais, il y a deux aspects pour rebondir un peu sur ce qui a été dit. Nostradamus, donc moi je me suis intéressé au personnage parce que Nostradamus a généré une énorme littérature. Donc pour replacer, il a vécu au XVIe siècle. Et il a écrit, outre des almanachs, c'était un médecin, à l'époque comme Rabelais. Et comme Rabelais, il était à la fois médecin et astrologue. Et donc toutes les années, tous les ans, exactement comme Rabelais encore une fois, Nostradamus publiait des almanachs dans lesquels il faisait des prédictions astrologiques, avec des quatrains. Mais on se souvient de Nostradamus tout particulièrement parce qu'il a écrit les prophéties, les centuries, qui sont une série de strophes un peu poétiques, dans lesquelles il est censé évoquer des événements à venir. En fait, aujourd'hui, ça a été décodé par les historiens qui se sont intéressés à ces textes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces textes sont tellement obscurs que dès qu'on les lit, on est forcé à interpréter. Donc c'est ce qui fait une partie du succès, parce qu'à l'époque d'Nostradamus, il y avait plein d'autres médecins astrologues comme lui qui ont laissé des ouvrages dont on ne se souvient pas. Mais lui, il est passé à la postérité parce que son texte a une structure tout à fait particulière qui fait qu'on est forcé de chercher des interprétations. Et comme en plus, il y a peu d'événements datés dans les centuries, du coup, on peut les adapter à tout un tas d'événements. Donc on a, après coup, c'est toujours après coup, on interprète des grands événements historiques en disant Nostradamus l'avait raconté dans telle et telle strophe. Il y a quand même quelques événements datés. Il se trouve que l'éclipse de soleil de 1999, la grande éclipse, elle est décrite dans Nostradamus, qui, en tant qu'astrologue, également astronome, pouvait connaître la marche des planètes et donc avait expliqué qu'il y aurait, en 1999, une éclipse. Donc ça fait partie des vraies prédictions de Nostradamus. Et il fait partie, effectivement, des auteurs qu'on mobilise constamment. Alors maintenant, c'est vrai que les Mayas ont tendance à avoir un peu plus de succès avec 2012, mais on c'est clair que Nostradamus sera raccroché là-dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que sociologue, c'est qu'il n'y a pas simplement des croyances populaires, entre guillemets, autour de ces sujets. On en parlait tout à l'heure dans le débat sur les risques technologiques. C'est vrai qu'on est passé d'une époque où on considérait que les histoires de fin du monde, c'était surtout des croyances, des mythes, des choses comme ça, à l'époque d'aujourd'hui, où un certain nombre, quand même une majorité, le sondage que vous avez vu, qui est très intéressant, c'est-à-dire que pour la première fois, on se dit que ceux qui nous suivent vont vivre dans un monde plus triste que le nôtre. Et la conscience, la prise de conscience écologique nous invite à se dire que peut-être qu'effectivement, on peut avoir à faire face à une catastrophe majeure qui va tout bouleverser. Et ça, c'est un truc qui gagne, y compris les scientifiques, vu le consensus qu'il y a, à part quelques scientifiques qui ne sont pas d'accord, qui sont assez rares. Donc on a un phénomène qui gagne tout le monde et qui est quelque chose de tout à fait intéressant par rapport aux époques qui nous ont précédées où on pensait que tout ça était de l'ordre des croyances religieuses qui étaient dépassées.
Et puis aujourd'hui, on a la capacité de détruire le monde entier avec l'arme nucléaire. C'est-à-dire que ça a changé quelque chose.
Dans les années 50-60, on avait la panique, la peur de la fin du monde nucléaire. C'est-à-dire qu'on allait le déclencher. Donc jusqu'ici, on s'est arrangé pour ne pas le faire. Mais là, il y a une nouvelle peur qui a un côté encore plus terrifiant que la peur nucléaire, parce que cette idée qu'avec notre vision rationaliste et capitaliste du monde, on a puisé dans ce réservoir naturel qui est à notre disposition, en pensant que c'était inépuisable. Et aujourd'hui, on se rend compte que pas du tout. Les civilisations qui nous ont précédés, qui ont ce côté un peu respectueux, dit-on, de la nature et tout, ils n'avaient pas si tort que ça, parce qu'on a créé des déséquilibres majeurs, semble-t-il, qui risquent d'avoir des conséquences en chaîne qui seront d'un autre niveau que celle de la bombe atomique, parce que là, c'est quand même à nous d'appuyer sur le bouton. Et avec la catastrophe écologique, on se rend compte que ça fait des dizaines d'années qu'on appuie sur le bouton sans le savoir, et qu'il y a un moment donné où on ne peut plus arrêter le processus. Donc. Et c'est ça vraiment le phénomène intéressant, c'est-à-dire qu'on a déclenché quelque chose sans prendre conscience, et qu'aujourd'hui, il est peut-être bien trop tard pour arriver à inverser le processus. Toutes les histoires de taxes carbone, on essaie de se rassurer tant qu'on peut, mais un certain nombre de scientifiques dit non, une partie du problème est déjà là et ça va continuer. Donc on est dans une atmosphère de fin du monde et qui gagne tout le monde.
Alors ça, c'est les fins du monde qu'ils ont racontées. On va revenir justement au plaisir de détruire la planète. Fabien Vellman, du coup, alors, on a un plaisir particulier, et est-ce qu'il y a un plaisir de destruction, de défaire ce qui est fait?
Pour moi, l'essence même de l'écriture, c'est un fantasme de démiurge, c'est-à-dire à un moment donné, pour des raisons x, y, chacun, je pense ici sur ce plateau, on a eu des raisons de se protéger du monde extérieur dans un univers qu'on maîtrisait complètement, celui de l'écriture ou du dessin ou que sais-je. Donc c'est un univers mental qui nous protège parce qu'on le maîtrise justement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise dans un univers qu'on crée soi-même. Donc souvent c'est une réponse au fait qu'on n'est pas très bien dans sa peau, enfin, en tout cas moi c'était ça, pas super bien dans ma peau, pas forcément des masses de copains au début, donc je me faisais mon univers, ce que j'appelle mon univers bisounours, tout va bien, enfin ça peut être, cela dit, ça peut être gothique, hein, ça peut être horrifiant, ça peut être gore, mais c'est mon univers, j'en fais ce que je veux. Et j'allais dire, c'est un peu comme le yin et le yang, hein, dans ce plaisir de créer, il y a aussi le plaisir de disposer de mes créatures, quitte à les détruire, bien entendu. Et le fait de fabriquer un monde, comme le fait un enfant avec un château de sable, prenez la bande dessinée Calvin et Hobbes, par exemple, c'est assez bien rendu par Watterson, quand son gamin fabrique un truc et le détruit juste après en mimant un tyrannosaure géant, parce qu'il adore détruire, c'est super. Et moi, je reconnais que les films catastrophes répondent en partie à ce besoin de destruction que j'ai envie de vivre comme une sorte de catharsis. Là où je pense que c'est... je crois que c'est au-delà de l'aspect démiurgique de l'auteur. C'est une réflexion que j'ai commencé à me faire. Alors, en fait, je partage le point de vue assez inquiet, hein, qui a été évoqué par Stéphane. C'est-à-dire que je suis, pour le coup, très pessimiste sur le moyen terme de ce qui nous arrive dans le coin de la tronche. Donc là-dessus, oui, je reconnais que, le prochain, parce que ça se trouve, on est déjà dedans, mais appelons ça le prochain pic pétrolier, le moment où on réalisera qu'on a moins de réserves que, voilà, qu'on pourra en trouver par la suite, va entraîner, je crois, pas mal de répercussions assez énormissimes, s'il n'y a pas d'autre chose qui arrive avant. Et j'ai eu une période, il n'y a pas très très longtemps, où je me disais, ça y est, c'est vraiment, c'est la fin. Là, on va vers la fin, on va dans le mur, ça m'angoissait terriblement, c'est-à-dire que vraiment, je voyais ça comme quelque chose de calamiteux. Je continue un peu à penser ça, hein. Et donc j'étais un peu devenu une espèce de prophète de mauvais augure à ne pas arrêter de dire à tout le monde « c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin ». Et puis j'ai lu un article une fois sur quelqu'un qui était justement contre les arguments écolos et qui disait, mais alors ça c'est typique des gens qui appellent à la fin du monde parce qu'en fait ils ont un désir secret que ça se produise. Et j'ai trouvé ça pas si idiot. Alors, je dis pas que ça rend caduque les arguments scientifiques qui nous montrent quand même qu'on va avoir des gros problèmes. Je crois qu'ils sont vrais. Je crois qu'effectivement il faut être quand même raisonnablement pessimiste sur la suite. Que par contre, il y ait chez un certain nombre de personnes qui annoncent la fin du monde une envie secrète, inconsciente la plupart du temps, effectivement d'en finir avec un certain monde, comme disait Stéphane, c'est un monde qu'on veut détruire, mais avec un fantasme de révolution, dans le sens, on fait table rase de quelque chose qui est assez visiblement une catastrophe. Enfin, on voit bien qu'on vit dans un monde, quand on parle de l'apocalypse à venir, si on a un tantinet lucide sur ce qu'on vit actuellement, on est déjà dedans. Enfin, je veux dire, nous, on vit dans la partie où tout va bien du monde, mais si on s'adresse aux gens de l'autre côté de la barrière, aux gens qui n'ont pas d'argent, à qui on a piqué des ressources minières ou pétrolières, c'est déjà l'apocalypse. C'est déjà les quatre cavaliers qui laminent l'Afrique tout le temps. Donc déjà, on peut dire que c'est déjà mal barré. Mais au-delà de ça, là encore, je crois qu'on a un certain nombre de personnes, et moi le premier, on a une espèce de désir de justement faire table rase de tout ça, de reconstruire une espèce de monde qui sans doute irait mieux derrière et qui nous amène à appeler de nos voeux cette espèce de catastrophe à venir. Là où je pense que c'est assez ambigu, c'est qu'en fait la catastrophe en question, on l'imagine d'une manière assez fantasmatique. Et dans ce sens, ma série Seule, elle est assez, c'est un peu le syndrome de ça, à savoir c'est une apocalypse assez soft, c'est des enfants. Ils sont tout seuls, mais ça se passe pas trop mal. Et puis après tout, ils ont quand même de quoi manger. Et puis il y a encore de l'électricité. Donc finalement, c'est cool. C'est une apocalypse gentille, quoi. Et c'est ce que je voulais hein, dans ma BD. Je voulais justement que ça soit relativement cool pour pas arriver trop vite à des thématiques difficiles. Mais je crois que ce faisant, en écrivant cette BD, je ressemblais pas mal à cette psyché commune qui consiste à se dire, et après tout, si on faisait table rase du passé en faisant une bonne grosse révolution écologique ou une bonne grosse catastrophe qui nous ferait du bien, et puis on reconstruirait autre chose, et ça serait peut-être pas mal. Et là où c'est dangereux, à mon avis, de croire ça, c'est qu'à force de dire ça va arriver en l'appelant de nos voeux, on risque de précipiter certaines choses, pas tant au niveau écologique, là on va essayer de lutter tant qu'on peut, quoi. Mais dans un sens sociologique, plutôt, je pense qu'il y a une espèce de montée de tension, de lutte entre des classes, je dirais ça comme ça. Et là où je trouve ça dangereux, c'est que je crois que la vraie fin du monde, entre guillemets, la vraie apocalypse qui risque de s'annoncer, je pense qu'elle sera finalement très banale, à savoir, à mes yeux, elle aura l'apparence d'une guerre civile. Une guerre civile, il y en a partout dans le monde, tout le temps. À mon avis, ça peut tout à fait nous retomber dessus, même en France, même en Europe. Et ça n'a rien de génial, dans le sens, ce n'est pas une table rase où on passe à autre chose. C'est quelque chose de vraiment dégueulasse. Et d'ailleurs, c'est ce contre quoi ont voulu lutter beaucoup de penseurs au XVIe, XVIIe siècle. Ça a d'ailleurs été la source de la pensée philosophique, je crois, qui a amené au capitalisme par la suite. C'était, il vaut mieux une guerre commerciale qu'une vraie guerre entre les gens. Sauf que le paradoxe, c'est que la guerre commerciale nous emmène à nouveau vers une forme de fin du monde.
Stéphane, quand tu écris la fin du monde, tu as un désir secret de fin du monde ?
Non, pas tellement. Je me demande s'il n'y a pas une dimension tout à fait fantasmée, fantasmatique, voire romantique. L'envie de voir la destruction de quelque chose, une aspiration radicale, totalement fantasmée, à mon avis c'est le meilleur terme. Mais je crois que ça rentre aussi en contradiction avec un autre facteur important de l'espèce humaine qui est son adaptabilité. Et moi je me demande si nous ne serons pas capables de survivre dans des conditions absolument épouvantables et nous adapterons. La nature aura pratiquement disparu, nous aurons trouvé des solutions, la température de la planète aura augmenté au-delà du supportable, nous trouverons des solutions. L'humain s'est toujours adapté, il s'est adapté à tous les climats, il s'est adapté aux famines, enfin, il survit. Voilà. L'adaptation, pas dans le sens de je réussis à m'en emparer pour en faire quelque chose de positif, mais je survis dans les conditions les plus épouvantables. Donc je pense que si on devait aller vers quelque chose qu'on pourrait appeler l'apocalypse, il y aura d'abord une transition très très longue, très pénible, et que les gens vivront peut-être même sans se rendre compte qu'il y avait 100 ans on vivait mieux, il y avait 200 ans on vivait mieux, je crois qu'on est vraiment capable d'encaisser, de supporter des conditions de vie qui, quand, si on était capable de s'extraire et d'observer un petit peu l'extérieur, on se dirait non mais c'est impossible de continuer à vivre dans ces conditions-là. On pourrait déjà le dire actuellement. Moi je peux dire c'est pas possible de continuer à vivre dans ces conditions. Et pourtant, personnellement, je vis bien. Norman ?
Je crois que ce n'est pas un désir secret, c'est une passion esthétique, pas secrète du tout. Vous avez, c'est un grand, c'est comme le 14 de juillet, ou le 4 juillet aux États-Unis, le plus grand explosion comme ça, c'est beaucoup de films comme ça, et expérience. J'écris une nouvelle. Le Big Flash. Et c'est une histoire d'un band de rock and roll qui en fait le worship, l'esthétique de la bombe atomique. Et avec du chant de faire la grande guerre atomique pour raison totalement showbiz pour une grande explosion. Et est en conférence littéraire à Milford, Pennsylvania, la fameuse conférence d'écrivains de science-fiction qui était faite par Damon Knight. Et quand dans l'histoire, c'est en musique, c'est quelqu'un qui chante le fin de l'adoration de l'explosion atomique avec la phrase do it, fais ça. Et quand j'arrive, Damon Knight, il va dans le bois, il trouve le champignon et il a crié do it, do it, do it, dans tous les petits champignons dans la table. Et il a mis le nouvelle très bien dans un niveau littéraire et toute l'autre personne aussi, mais c'était un grand discours. Si c'est une chose c'est une chose mauvaise de faire faire une audition d'une chose comme ça, parce que c'est un désir pour un mec comme Damon Knight, je ne sais pas, un fasciste ou rien de tout comme ça, pas militariste, mais c'est une passion esthétique pour le grand pour le dernier orgasme, oui. Le plus grand orgasme possible, c'est le fond de le monde comme ça. Et ça, c'est pas un désir intellectuel ou même émotionnel, c'est une chose esthétique dans une certaine manière. Et c'est beaucoup d'art comme ça. Des personnes avec des signes, le fond, c'est proche, mais on voudrait vous ça. Ça, c'est un. J'avoue une autre chose. C'était une grande explosion de le volcan de Mount St. Helens. Et c'est un mec avec une caméra de vidéo qui est, qui est près de ça. Il est sûr qu'il était mort en quelques secondes. Parce que c'est un pyroéclastique fleuve qui était très rapide, tout ça. Il reste avec la caméra et fait le footage pour ça jusqu'au moment de sa mort et appuie. Et ça, c'est peut-être une chose dangereuse.
Mais en fait, c'est vrai que finalement, raconter des destructions de monde, au-delà de la tentation esthétique ou intellectuelle à le raconter, ce qui est peut-être le plus amusant, c'est d'imaginer ce qui se passe après. Donc je ne sais pas si c'est raconter la destruction du monde qui est la plus intéressante ou si c'est d'imaginer ce qui se passe plus tard.
On va en parler de l'après, mais juste avant, je voulais poser la question au sociologue. Est-ce que nous avons un désir inconscient de fin du monde ?
Ça, je crois que c'est vraiment la question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. Ce que je pense par contre, il y a vraiment un aspect qui me paraît très intéressant, c'est que justement cette prise de conscience qui est assez récente, parce que l'écologie c'est un phénomène qui nous a accompagnés, notre génération et tout, mais c'était quand même quelque chose d'assez marginal. Aujourd'hui, ça a ce côté central dans la réflexion, ce qui fait qu'il y a des moments, où vous le décriviez tout à l'heure, moi c'est aussi quelque chose qui m'a gagné, cette idée que quand on réfléchit à tout ce qu'on nous dit, on se dit, mais oui, on vit vraiment une époque où ça va barder, on va avoir des problèmes, de sérieux problèmes. Et du coup, on se retrouve dans... ça nous permet de comprendre les époques antérieures où la fin du monde était quelque chose qui devait régulièrement se produire. On voit à quel point les gens vivaient dans une situation d'inquiétude, qui est quelque chose qui nous avait un peu quitté. Nous, on était dans un monde qui était stabilisé parce que la science était censée nous donner... justement la connaissance du monde et être capable donc d'avoir des actions raisonnées. Et en fait, bon, le travail scientifique, c'est quelque chose qui a été inventé il y a 400 ans, l'invention du laboratoire. On part souvent de Galilée, en fait, il faut s'appuyer sur la fondation de la Royal Society, de Robert Boyle et des premiers chimistes et physiciens qui ont inventé le laboratoire. Et ça, c'est pas quelque chose... Le savoir scientifique semble être quelque chose d'atemporel. Non, c'est daté. Et ça correspond à une certaine exploitation de la connaissance et des ressources naturelles. Et ça va ensemble avec le mode de gestion capitaliste. Les scientifiques sont des capitalistes à leur manière. Ils stockent du savoir comme d'autres stockent des richesses. Et donc, ça participe d'une certaine philosophie de la gestion des ressources qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Donc, ça pose également la question, est-ce qu'il ne va pas falloir transformer notre conception de la science, du savoir, pour arriver à nous adapter? Donc, il y a notamment, c'est très présent aux États-Unis, toutes les disputes entre la vision classique de la science et la vision féministe, un débat qui est un peu absent chez nous, mais qui est très présent aux États-Unis, qui montre comment il peut y avoir d'autres façons de concevoir le savoir scientifique. Mais là, effectivement, comme on est dans une situation où cette prise de conscience gagne, y compris les plus intellectuels, les plus scientifiques, alors qu'avant, c'était censé être une croyance populaire, on est dans cette idée qu'il va se passer quelque chose. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour y remédier? Et ça nous plonge dans un état qui est vraiment tout à fait particulier. Alors, est-ce qu'on l'appelle... Je crois qu'on est plutôt dans une phase où on le redoute, où on vient concrètement à se dire on ne va pas pouvoir faire quelque chose, donc on le redoute plutôt. Alors, au niveau des romanciers, c'est différent, puisque là, c'est un jeu qui est assumé. Et en général, une fois que le roman est fini, on est censé ne plus totalement y croire. Mais là, on est dans une situation où on a beau fermer le journal tous les matins, ça continue à exister. Donc, c'est tout à fait inédit. Et ça signale quelque chose de nouveau, pour lequel il va falloir inventer des solutions nouvelles.
Alors, ça y est, on a détruit le monde. La fin du monde a eu lieu. Vous n'avez rien senti. Qu'est-ce qu'on fait après? Stéphane, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'organisation, notamment dans Chromosome? Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as déjà évoqué un petit peu tout à l'heure.
Eh ben, en fait, sans avoir de connaissances en sociologie, je me suis permis d'établir ce qui me semblait être des logiques imaginables en regardant l'histoire, en regardant l'évolution des sociétés, en m'inspirant de ce que j'estimais être la nature des humains. J'ai essayé de répartir... c'est pas une idée nouvelle, hein. Stephen King l'avait fait avec le fléau, sauf qu'il avait mis une dimension religieuse en plus. Il séparait les survivants en deux catégories et il voyait la lumière et l'ombre, et puis il voyait si ceux qui avaient décidé de suivre la lumière allaient réussir à prendre le pas sur le mal ou sur la méchanceté. Là, j'ai fait un petit peu la même chose. J'ai essayé d'imaginer qu'il y aurait une minorité d'individus qui tenterait de transcender les notions de survie immédiate qui font qu'on a le droit de tuer, de piller, de s'approprier les quelques richesses qui peuvent demeurer, pour justement voilà, essayer de d'établir ce qui pourrait constituer un réseau éthique, ou en tout cas une façon, j'aime pas ce mot, mais morale, de continuer à vivre dans un monde en déliquescence. Et je plonge ces quelques individus dans un univers où tout se passe vraiment mal et où leurs convictions vont être mises à rude épreuve. Et la conclusion, c'est qu'ils finissent pratiquement tous. Alors il y a ceux qui vont lâcher le combat en disant bon ben non, décidément j'y arrive pas. Donc ils vont s'exiler quelque part et tenter de vivre seuls. C'est pas forcément la bonne solution. Il y a ceux qui vont comprendre que même au sein d'une structure essayant de conserver des valeurs positives, il y a des choix qui doivent être faits et qui impliquent de faire du mal à d'autres personnes. Et il y a, comme d'habitude, ceux qui choisissent d'appliquer des solutions radicales en utilisant toutes les possibilités proposées par l'histoire et par l'humain, se fédérer autour d'une couleur de peau, autour d'une religion, autour de l'amour de Miles Davis, par exemple. Si tu n'écoutes pas du jazz, je te tue. Donc, trouver toujours le plus petit dominateur commun de l'espèce, à mon avis, étant la peur. À chaque fois qu'on réussit à cristalliser les gens autour de ça, on réussit toujours à obtenir des suivants. Mais par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est vrai que peut-être que dans des logiques de peur et dans des logiques d'inquiétude globale où tout à coup chaque citoyen, chaque individu se dit que vraiment il y a quelque chose qui va plus aussi bien, c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut qu'il y a peut-être y avoir un retour vers les politiques, justement. C'est peut-être à ce moment-là que les politiques vont être invités à proposer des solutions. Et s'ils ne le font pas, s'ils ne sortent pas de l'espèce de discours mielleux et bien pensant, ou peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas la solution, qu'ils n'osent pas le dire, alors on se tournera peut-être vers des solutions radicales. Enfin, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus.
Est-ce que finalement la fin du monde, c'est pas non plus pour l'après, tout l'intérêt c'est de mettre des individus face à des situations exceptionnelles, et ensuite tout l'intérêt c'est la reconstruction, repartir de quelque chose de neuf.
Mais aussi, ça c'est pas la vraie fin de le monde, c'est pas la fin de la planète, à part la fin de la biosphère. Mais c'est une chose littéraire, une technique littéraire, très commune dans le science fiction de long avenir. C'est très difficile, on a créé un vrai roman de l'année, je ne sais pas, 3000 au plus, avec une connexion directe historique, avec une mémoire directe historique de notre présente. C'était très difficile de créer une chose comme ça. J'ai écrit deux romans comme ça, et ça, c'est tout. L'Enfant de Fortune et Le Void Captain Stair. Mais c'est difficile de faire ça. Pour la plupart, le space opera, le space opera de l'année 3000 ou choses comme ça, des écrivains ont utilisé le fond de notre monde pour un coupage, pour faire un table rasa, d'écrire un roman d'un autre futur sans le mémoire de notre civilisation, sans le mémoire de l'évolution de les derniers 2000 années, parce que c'est très difficile de faire ça. Et ça, c'est une technique très important pour des écrivains de space opera, choses comme ça. Même les bandes dessinées comme ça.
Je rebondis sur cette idée que la fin du monde, c'est effectivement une figure littéraire. Pour un autre facteur, c'est que je crois que c'est le meilleur moyen pour vraiment communiquer au lecteur l'impression de sa propre mort à venir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, enfin, si on imagine que mourir, c'est notre fin du monde, mettre en scène une fin du monde dans un roman, c'est une manière de dire, ou une BD, de dire au lecteur: vous voyez bien que personne ne va s'en sortir. Donc là, je parle d'une fin du monde radicale, hein, pas justement une fin du monde avec possibilité de fuite. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose d'assez excitant et bien entendu flippant. De toute façon, c'est les deux versants de l'excitation. Il y a une part de peur, il y a une part d'excitation, qui est de se dire, quand on lit un récit de fin du monde, oula, mais donc on va y passer, donc finalement tout l'univers va y passer. Et je trouve que c'est un assez bon résumé, je pense, de l'impression qu'on a quand on va vraiment mourir, à savoir, mais donc, ça y est, c'est la fin, quoi. Avec cette espèce de surprise un petit peu stupéfaite que j'imagine on verra sur mon visage quelques minutes après ma mort, genre, ah, bah, qu'est-ce que... Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est effectivement un bon outil littéraire. Et je reconnais, et c'est là que je vois que je suis quand même assez ancré dans le côté morbide de la chose, à certains égards, je suis moins intéressé par l'après que l'avant. Je dirais que si je reprends l'image que c'est comme une espèce de giga-orgasme symbolique, la fin du monde, bah, j'allais dire, après, l'après, ça serait à ce moment-là, la reconstruction, c'est le moment où on élève les gamins. Donc on va dire, c'est certes plein de joie et tout ça, mais c'est aussi beaucoup se lever tôt le matin ou pendant la nuit. Donc c'est moins ce côté immédiatement valorisant, mais sans doute que c'est lié à une fascination de ma part, là encore, pour le côté très très morbide de la chose.
Alors il nous reste un petit quart d'heure. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Peut-être des fins du monde à nous raconter. On a tous été au cinéma voir des films catastrophes. Sinon, on continue à en discuter. Je ne vois aucune main qui se lève. Personne, une fois, deux fois, trois fois. Ah, si, monsieur là-bas. Attendez, on vous apporte un micro. Non, non, le micro arrive.
Alors, moi, ce qui m'amuse, c'est que la fin du monde, on la voit, enfin, peut-être c'est juste mon imagination, hein, mais telle que vous la voyez, j'ai l'impression, on va dire, pour résumer, une explosion. Enfin, c'est une image, hein, ça peut être, c'est plus général, donc un peu un bang, quoi. Et donc, moi, ça me rappelle, je ne dis pas ça pour étaler ma science, parce que voilà, il y avait un poème de T.S. Eliot qui disait « La fin du monde ne termine pas avec un bang, mais dans un murmure ». En fait, c'est un peu, ce poème m'a marqué, parce que c'est, bon, c'est un grand poète, et c'est un peu ma vision du monde, c'est qu'en fait, la fin du monde, ça sera à la fin, il y aura une nuit noire, et ça sera tristement banal, et à la limite, c'est presque plus terrifiant que l'idée du bang. C'est du coup, pour le coup, c'est pas du tout orgasmique, hein, effectivement. Et moi, c'est un peu la peur, la fin du monde, qu'on a tous plus ou moins, enfin, je suppose. Moi, c'est un peu comme ça que je la vois, c'est-à-dire, c'est une espèce de murmure dans le vent qui disparaît, tout est noir, on ferme la porte, et puis on part, voilà, enfin, une image. Et alors qu'en fait, on reste très très focalisé sur effectivement l'idée d'une apocalypse.
Pardon ?
De spectaculaire, voilà, si je veux, tout à fait. Nucléaire ou écologique, mais que ça soit une espèce d'explosion en quelque sorte.
Je suis entièrement d'accord. Hein. C'est dans ce sens que je pense que c'est une vision très fantasmée. Et c'est dans ce sens que je trouve cette vision un peu dangereuse. Parce que finalement, c'est comme si on appelait à cette espèce de fin spectaculaire. Et comme vous le dites très bien, qui serait apparenté, comparons ça un peu à un coup de revolver dans la tête, quelque chose de très rapide et très spectaculaire, là où malheureusement il vaut mieux s'attendre à une longue agonie due à un cancer, en fait, c'est un peu ça. Et, mais il y a quand même une partie de nous qui croit que ça va être la balle dans la tête en disant hey, c'est peut-être pas mal ça, disons c'est une sacrée fin, quoi. Enfin, au moins c'est une fin, c'est flamboyant, quoi. Et je suis assez d'accord qu'à mon avis ce sera bon. Est-ce que le cancer c'est un long murmure? Quoique si, ça fait un peu penser à un titre d'un film de Bergman. Hein. Donc effectivement, il y a un peu de cet ordre-là. Et c'est effectivement une vision, enfin, je partage l'idée que ça sera une vision sans doute assez, à la fois assez banale et, comme ça a été dit avant, sans doute très long et très pénible. Il y a un peu de ça sera sans doute pas sur quelques années, ça sera sur des centaines d'années et qu'effectivement, dans ce sens, ça n'a rien du tout d'orgasmique.
Oui, je crois également, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur le côté mesquin, une très lente déliquescence, quelque chose que les gens qui la vivront ne verront peut-être pas, ne ressentiront peut-être pas. Et en fait, il faudrait être un observateur extérieur pour pouvoir réaliser que les conditions sont de plus en plus graves. Mais effectivement, je ne connaissais pas cette phrase, c'est très très beau, ça ne finira pas en bang, mais en murmure. Ouais, c'est très joli. Et puis par ailleurs, pour rebondir également sur votre remarque, à titre personnel, je m'inquiète assez vite quand je vois des gens appeler la fin du monde, car j'ai souvent l'impression qu'ils se rêvent en seigneur des ruines, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens qui appellent à l'effondrement des structures ont déjà un plan pour l'avenir et dans lequel, bizarrement, ils se verraient plutôt en haut de l'affiche. Donc, il faut se méfier aussi de ces individus-là.
Vous voulez réagir ?
Non. En fait, la discussion montre... C'est quoi, à partir de quel moment on parle de fin du monde ? Parce que, bon, traditionnellement, la fin du monde, il n'y a plus rien. C'est fini, on n'est même plus là pour le constater.
Là, on est dans la fin de la sphère humaine, en
voilà,
fait.
Voilà, tandis que là, on est plutôt dans une espèce de fin de l'histoire telle qu'on l'a conçue, et il va falloir s'adapter à autre chose. Et l'idée de fin du monde, c'est qu'on est dans un niveau d'adaptation qui est vraiment au-delà de celui auquel on était habitué jusqu'ici. Donc, ça repose vraiment tout le problème.